écoutez la web radio du Off en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du Off.
Bienvenue dans notre bien belle cité d'Avignon et salut commune. Pourquoi je dis ça? Bah parce que je reçois un spectacle, enfin les membres d'un spectacle qui se produit au Théâtre des Vents à 17h jusqu'au 31 juillet et dont le titre justement est Salut commune. Bonjour à tous.
Bonjour.
Toutes et tous, excusez-moi, puisque on retrouve Franck Guibert. Vous êtes l'auteur de ce spectacle et comédien. Et à vos côtés, Claire Rupli. Donc, vous étiez déjà venu l'autre jour,
à... oui, en début de festival, oui.
Le temps passe
pour
tellement.
Le Théâtre des Vents, parce que je suis co-directrice du Théâtre des Vents. Et nous accueillons donc ce spectacle, Salut Commune, dans lequel je suis également. Donc, ça tombe bien.
Voilà, donc le monde est petit. Le Théâtre des Vents l'est également. Il fait moins de 49 places.
Oui, juste 49 places. Donc, nous ne vérifions pas l'identité sanitaire des gens. Les gens sont libres d'être ou pas... vacciné.
Voilà. Contrairement à Paris en 1871, hein, vous pouvez entrer et sortir sans avoir qu'on vous vérifie vos papiers. Et par conséquent, ce spectacle, Salut Commune, parle bien entendu en cette année 2021 qui correspond aux 150 ans de la Commune de Paris, eh bien, correspond évidemment à une exploration pas forcément historique. Hein, il ne s'agit pas de faire quelque chose de didactique sur l'histoire de la période, ni à s'attacher à une personnalité en particulier d'ailleurs, puisqu'il y a déjà d'autres spectacles qui l'ont fait ou qui le font encore à Avignon. Je pense à Louise Michel notamment, qui fait l'objet de quelques spectacle. Non, ce n'est pas votre démarche. Cette démarche qui d'ailleurs est faite au sein de la compagnie Théâtre 15, créée par votre confrère Pascal Socrou, qui déjà avait fait abordé des thèmes politiques, notamment les droits des femmes. C'est bien ça?
Absolument.
Et des femmes, justement, en France, elles ont eu des droits plus particulièrement. Certes, il y a eu 1789, mais ça n'a pas duré longtemps. Et il y a eu 1870-71, où justement, les femmes avaient pris, là encore, les armes, et aussi pour acquérir des droits qui, là encore, n'ont pas duré très longtemps. Les révolutions se font dans la longueur, mais on en reparlera tout à l'heure. Et donc, c'est à ce thème que vous vous intéressez dans ce spectacle. Et le point de départ de l'écriture de ce spectacle à laquelle vous vous êtes attelé, vous-même, Franck Guibert, le point de départ s'est fait de manière assez insolite, assez curieuse, inattendue. C'est venu d'une discussion sur l'actualité brésilienne.
Absolument, c'est lors d'une discussion avec l'artiste brésilienne, mais en France depuis 25 ans, Monica Passos, que l'idée est venue de créer ce spectacle qui alors devait s'inscrire dans la campagne internationale à laquelle nous participions, elle et moi, et d'autres, pour la libération du président Lula, qui depuis a été non seulement libéré, mais totalement innocenté.
Il y avait un scandale de corruption au Brésil. Corruption au Brésil, ça fait un peu pléonasme. Et dans lequel Lula avait été compromis et donc son parti, le Parti des Travailleurs. Et du coup, il avait été emprisonné, mais on a montré que la justice avait été complaisante et qu'en plus, c'était bien moindre que ce qu'il y avait eu avant par des gouvernements de droite. Et du coup, voilà, pour simple rappel de l'actualité, vous étiez investi dans ce soutien au président Ignacio Lula. Voilà.
Absolument, d'autant que... c'est une totale innocence du président Lula qui a été reconnue récemment. Et preuve a été faite que le juge qui s'était acharné contre lui à l'époque, qui depuis a été récompensé en étant nommé ministre de la Justice, s'entretenait avec le procureur pour absolument obtenir la condamnation du président Lula qui, lors des dernières élections présidentielles, était crédité de plus de 60% du vote de la population pour avoir, au cours de ces deux mandats, aidé à sortir 40 millions de Brésiliens de la misère.
Ce qui est tout à fait énorme, quasiment deux tiers de la population française en un mandat sorti de l'extrême indigence. C'était quand même très fort. Et du coup, c'était une volonté qui, en soi, était révolutionnaire, de sortir les gens de la misère. Ce n'était pas forcément changer de société radicalement, mais au moins faire en sorte que les gens n'aient plus faim. Déjà, c'est tout à fait énorme. Et du coup, c'est aussi ce qu'avaient voulu les républicains chez nous au 19e siècle, avec diverses expériences sociales et républicaines qui avaient existé dans notre histoire à l'époque. Je pense en 1848, il y avait eu des ateliers nationaux qui avaient été créés, des cantines populaires, pour que justement cette démarche, sortir les gens de l'indigence. Et en 1871, ça a été un petit peu pareil, mais dans un contexte tout à fait différent. La ville était assiégée.
Absolument, la ville était assiégée par conséquence de la politique belliciste de Napoléon III, qui, lorsque la commune éclate, est depuis longtemps déposée et en fuite, et cette ville est assiégée pendant des mois. La famine fait rage. Les femmes en particulier les femmes, dès 2h du matin, en plein hiver, font la queue pour avoir quelques 200 grammes de pain mélangés avec de la paille. Et ces femmes qui, le matin du 18 mars, entendent des mouvements de canons qui avaient été portés sur la butte Montmartre par les gardes nationaux pour les conserver, puisqu'ils avaient été payés par une souscription populaire au moment de la guerre. Et c'est ces femmes qui entendent ces mouvements et qui empêchent. Et c'est ce 18 mars qui est le déclenchement de cette première révolution qui porta le peuple au pouvoir pendant 71 jours, qui géra ses propres affaires, et notamment la réouverture des ateliers nationaux, puisque vous en parliez, qui avaient été fermés au cours du conflit.
Et si les femmes n'avaient pas été là ce jour-là, enfin cette nuit-là, l'histoire n'aurait été tout à fait différente, pour reprendre les termes de Pascal. Et par conséquent, oui, c'est vrai que ces canons avaient été... on avait pris la décision, en tout cas Thiers, le gouvernement qui était installé à Versailles, avait pris la décision de les retirer discrètement, histoire que les Parisiens n'aillent pas faire une révolution. Tiens, ben, loupé mon gars. Et du coup, ça a été justement le prétexte à se défendre, tout simplement, et puis à défendre un projet en même temps social, qui certes n'a duré que quelques dizaines de jours, mais qui a été marquant dans notre histoire. Alors, je me disais, le point de départ a été cette discussion, mais vous-même, quelque part, je me dis, vous aviez des prédispositions à vous intéresser à de tels sujets.
Ah, moi-même, je suis un artiste qu'on pourrait qualifier d'engagé, un artiste qui s'interroge sur la société, sur le cours de l'histoire et de l'histoire présente. Pour les spectateurs du spectacle, pour vos auditeurs qui sont les bienvenus cet après-midi et demain, je précise que nous jouons jusqu'au 29.
Jusqu'à vendredi, donc.
Jusqu'à jeudi, pardon. Soir, donc encore aujourd'hui à 17h et demain à 17h. Et
d'accord.
Donc les auditeurs sont les bienvenus. Vous découvrirez justement une idée dans le déroulé du spectacle qui va rendre cette commune de Paris, cette commémoration d'actualité, compte tenu de toutes ces mesures. Par exemple, l'une des premières mesures que le gouvernement de la commune prend, c'est la réouverture des théâtres.
En 1871, vous dites ?
En 1871.
C'était des lieux de réunion populaires à l'époque, par conséquent, oui. Il n'y avait pas de forum internet, donc voilà.
Ah, mais pour les réunions, mais pour aussi faire place à l'art. Le 11 mai, un concert est donné avec de grands artistes, dont une tragédienne, Mademoiselle Agard, qui est dans le texte du spectacle de la Comédie française, en soutien aux blessés de la Garde nationale. Donc, c'est un gouvernement dont des artistes, d'ailleurs, ont fait partie, des artisans, des ouvriers, bien sûr, qui donnent toute sa place, pas seulement au ravitaillement, pas seulement au travail, aux droits des femmes, à l'école, à la santé, mais aussi aux artistes, aux arts. Ce qui est bien différent d'aujourd'hui.
Parce que, pour reprendre les termes d'un syndicaliste italien, nous ne sommes pas que des créatures animales, nous avons besoin de pain, mais nous avons aussi besoin de roses. Et c'est une phrase de cet anonyme qui pour la, en tout cas, l'anonyme, lui, n'a pas marqué l'histoire, mais sa phrase, extrêmement poétique, je trouve, est restée. Et par conséquent, bah voilà, c'était donc du pain et des roses pour le peuple de Paris de l'époque. Mais bon, les deux étaient difficiles à trouver. La métaphore vous plaît ?
Magnifique.
Elle n'est pas de moi, mais je ne me fais que l'intermédiaire. Et par conséquent, un autre art qui vous aura sans doute un petit peu inspiré, c'est les traces littéraires qu'il reste. Alors, on en trouve en musique, en littérature, vous y reviendrez tout à l'heure, mais aussi pour le visuel de ce spectacle, vous avez choisi une statue. Une statue qui vous a marqué, et Claire Rupli, vous pouvez justement en dire quelques mots, puisque c'est une statue que vous avez sinon découverte, du moins photographiée, cet hiver.
Alors oui, on était devant l'Odéon, devant les AG de l'Odéon, qui était occupé. On y est passé un jour comme ça, et puis il faisait très très beau, très froid, mais très beau. Et on s'est dit, on devait répéter nos textes quand même, avant Avignon. Et on s'est dit, allez, on va répéter au Jardin du Luxembourg. Donc avec les bonnets sur la tête, moi je suis montée sur un banc pour Louise Michel.
Était-ce des bonnets rouges ?
Non, il est, je ne sais plus, roux. Bon bref. Et donc j'haranguais un peu les gens, machin. Et puis à un moment, je me retourne et je vois cette statue. Et je dis à Franck, mais c'est Victor Hugo. Hein, le masque de la statue, c'est Victor Hugo. On s'approche, c'est le vendeur de masques. Et il se trouve qu'en dessous, bon, il n'y a que des bons hommes, hein, une fois de plus, qui ont participé à la commune. Enfin, à cette époque-là, il y a Corot, je crois qu'il y a Delacroix, enfin, il y en a plusieurs. Et puis, j'ai pris cette photo, ma foi, sur l'iPhone. Et puis, j'ai proposé, parce qu'au début, on avait un champ de coquelicots. Et j'ai proposé à Franck, et pourquoi pas pour Salut Commune. Parce qu'en plus, dans notre spectacle, à un moment, moi, je dis le texte de La Barricade de Victor Hugo. Et donc, c'est un jeune garçon qui choisit de se faire tuer sur les barricades. Enfin, il ne choisit pas, il se fait arrêter. Puis finalement, et donc, ça m'a inspiré, ce garçon. Voilà. C'est donc le marchand de masse de... Qui est-ce qui a fait la statue ?
C'est Zacharie Astruc.
Voilà.
Donc, une statue qu'on peut trouver dans un parc parisien, où on trouve sur le socle différents visages d'artistes.
Oui, ouais, et puis c'est un peu la blague cette année avec ces histoires de masques.
Bah oui, tout à fait. L'analogie nous parle à l'aune de l'actualité récente. Et puis, il y a un petit côté un peu David et Goliath ou Gavroche, tout simplement, dans cette statue d'un garçon un petit peu prime sautier, si j'ose dire, un petit peu taquin. Voilà. Et par conséquent, c'est un symbole qui est assez joli, mais sur lequel on avait besoin de deux mots d'explication. Et tout autant, d'ailleurs, qu'on a sur le choix des textes littéraires et poétiques que vous avez fait. Pour parler de cette période fondatrice de notre histoire, la Commune, des textes, donc on pense à Victor Hugo notamment, qui avait pris Fait et cause de loin, certes, mais à l'époque, mais il y en a bien d'autres. Lesquels vous ont influencé ? Pas Jules Verne, parce que lui, il l'a condamné, et Georges Sand, pareil. Hein. Eux, ils étaient vraiment hors du truc.
Rares ont été les artistes qui ont soutenu et chanté la Commune. Victor Hugo, en effet, en fait partie, mais d'autres, comme Arthur Rimbaud. Vous avez le communard de Marseille, Clovis Hugues, avec ce poème « Hymne à la Commune », qui d'ailleurs commence par cette phrase « Salut Commune », dont nous avons nommé le spectacle. Et nous sommes en Avignon, donc c'était la moindre des choses.
Mais vous faites bien de le rappeler, parce qu'on l'oublie trop souvent. Il y a eu des communes un petit peu partout en France, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille. Elles ont été réprimées beaucoup plus rapidement.
Narbonne,
Toulouse.
Ah oui,
Narbonne aussi. Je ne le savais pas. Et je vous en prie, continuez. Donc, Clovis Hugues, qui vous a inspiré le titre du spectacle.
Oui, et puis les poèmes de Louise Michel, qui sont de très beaux poèmes également. Et c'est à la fois de la poésie que nous faisons entendre, à la fois une narration, quand même, sur le déroulé de cette commune, par des passages de cet ouvrage de référence. Écrit par Prosper Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, qui lui-même a une plume très concrète et qui donne toute la dimension de cette effervescence révolutionnaire. Mais ce n'est pas un spectacle didactique, encore moins une conférence. Nous avons voulu faire entendre cette poésie en hommage et en soutien, puisque Clovis Hugues a été communard, en participation à la commune.
Très bien. Et vous, Claire Rupli, comment vous êtes, vous, je n'ai pas envie de dire inséré, mais puisque vous étiez là dès l'origine, mais comment c'est fait pour vous ? Quelle est votre place finalement dans le spectacle ? Est-ce que vous êtes en contrepoint de Franck ? Est-ce que vous êtes en osmose, pour reprendre le titre de notre station ? Comment s'est faite l'organisation entre vous de la diction de ces textes ?
En fait, donc, Franck m'a proposé ce projet. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant. Et j'étais très touchée parce que moi, la commune, effectivement, j'avais entendu parler, Louise Michel, tout ça, je connaissais un peu des textes, mais il m'a vraiment nourrie au niveau historique, au niveau politique. Donc déjà ça a été énorme pour le travail, parce que jouer ces textes, c'est pas seulement, je pense que n'importe quel texte, il y a un engagement, mais si on porte ces textes à la scène, il faut quelque part être légitime, il y a un engagement même politique, je dirais, de se mettre à prendre cette parole. Donc, il m'a nourri comme ça. Après, je ne sais plus comment ça s'est distribué, disons. Alors, il voulait faire son orgie parisienne de Rimbaud, je lui ai laissé, parce que alors là, il a un sacré couloir. On a choisi ensemble, on s'est un petit peu partagé. Et puis, l'idée aussi, comme disait Franck tout à l'heure, c'est que c'est à trois voix. Donc, ensuite aussi, on a rencontré un saxophoniste et on a travaillé avec lui. Voilà, ça s'est fait naturellement. Je ne dirais pas que... Bon, je porte certains textes de femmes, par exemple les pétroleuses, parce que ça m'amuse aussi.
Les pétroleuses qu'on a appelées comme ça parce qu'elles brûlaient les bâtiments pour protéger des bombardements prussiens, c'est ça ?
Voilà, elles se trimballaient avec leurs fioles, soi-disant, elles mettaient le feu aux maisons.
Mais c'était
elles
de la propagande.
Elles ont été arrêtées, elles ont été condamnées comme incendiaires. Mais le feu qui consume Paris, en réalité... Et la conséquence, des bombardements intensifs, des armées de tiers, par des obus incendiaires. Les femmes étaient sur les barricades.
Alors, il y a une controverse historique qu'on ne résoudra pas aujourd'hui, mais donc il y a cet aspect, se venger des femmes qui prenaient un petit peu trop la culotte, en quelque sorte, à ces messieurs et notamment à Monsieur Thiers. Et il y a aussi une part de la propagande qui nous est restée, et puis aussi peut-être aussi une part de vérité, parce que l'astuce au point de vue tactique et militaire était tout à fait légitime. Par conséquent, c'est justement votre rôle d'être un point de vue de femme, une voix de femme qui était particulièrement importante.
Les femmes étaient très jeunes, il y avait des jeunes femmes de 20-25 ans, Léontine Swetens, Lali Papavoine. Il y a aussi eu beaucoup de femmes qui ont fait femmes et hommes, dont on a perdu les noms, parce que ceux qu'on connaît, c'est ceux qui ont laissé des œuvres, des choses comme ça. Mais bon, il y en a plein.
Et par conséquent, pour donner à ressentir tout autant qu'à entendre les témoignages de cette époque-là ou les hommages qui lui ont été faits peu après, eh bien, en plus des textes, vous l'avez dit vous-même, c'est un opus à trois voix, vos deux voix à vous, fille, garçon, et puis la voix d'un instrument de musique qui n'existait pas tout à fait encore à l'époque, puisque Adolphe Sax n'avait pas encore inventé cet instrument, c'était le saxophone. Le saxophone qui a tout d'abord été joué par votre collègue Stéphane et que finalement vous avez repris, vous, Uli Walters. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vous qui interprétez ces quelques notes de saxophone qui soulignent le travail des comédiens. Alors comment ça se passe pour vous sur scène? Comment vous soulignez un petit peu cette ambiance-là?
Comme disait Claire, en fait, ce qui était vraiment intéressant dans le travail, c'est de ne pas jouer de la musique pour un spectacle, mais vraiment être la troisième voix. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aucun effet, tout est complètement acoustique. Et donc aussi le challenge que c'est de justement se mettre au diapason et ne pas couvrir les voix et puis parfois prendre le dessus, c'est vraiment comme des vagues un peu qui se répondent et puis c'est vraiment intéressant parce que comme disait Claire, c'est vraiment une troisième voix et qui doit rester pertinente, qui ne doit pas partir dans son propre univers.
Et oui, une troisième voix, alors qui correspond plus à une troisième voix en contrepoint des deux autres, mais qui ne souligne pas, qui n'est pas forcément là pour souligner les textes forcément. C'était un petit peu maladroit de ma part de le formuler comme ça. Toujours est-il que vous allez justement nous donner à entendre un aspect de cette performance-là, puisque si on sait que l'International, cette fameuse chanson révolutionnaire, a été composée à l'époque, eh bien, c'est par quelques notes de musique et par les textes que vous récitez durant le spectacle que vous nous proposer de conclure cette interview. Donc d'une main, je continue à vous rappeler, chers amis, que vous pouvez voir Salut Commune au Théâtre des Vents à 17h, encore aujourd'hui mercredi 28 et demain jeudi 29. Merci Franck Guibert, merci Claire Rupli, merci Uli Walters d'être venu nous parler de ce spectacle. Et maintenant, je vous cède la parole et vous allez nous donner à entendre quelques impressions de cette période-là.
Salut commune.
Quand tu vins, la France agonisait, livrée par les rhéteurs subtils et vains, par les repus de la curée. Les bourgeois monnayaient l'affront, leur chef criait
« Feu sur qui bouge !»
Versailles riait, quelle gouge, toi tu pleurais la honte au front.
Salut, ô grande Vierge rouge, salut commune.
En te dressant pour venger de leur capitaine tous ces parias, dont le sang est moins cher que l'eau des fontaines, c'était l'aube auguste des droits qui se levait dans ta prunelle. Les peuples étaient sous ton aile, tu ne combattais que les rois.
Salut, patrie universelle. Salut, commune.
Tu clamais.
Ne coulez plus larmes amères. Debout, faisons sur les sommets rayonner les saintes chimères.
Tu rêvais, ô toi qu'on proscrit, le mal mort, la haine bridée, dans l'humanité fécondée par tous les mâles de l'esprit.
Salut, glaneuse de l'idée. Salut, commune.
Ô jour maudit, contre toi, contre les apôtres, se dressèrent tous les bandits qui mangeaient le pain blanc des autres. Lorsqu'ils t'eurent collé au mur, Foutriquet éclata de rire. On tira sur toi comme on tire sur les moineaux dans le blé mûr.
Salut, glorieuse martyre. Salut, commune.
Le ciel bleu riait aux flots baisant la rive. Tu respirais encore un peu. On t'enterra dans la chaux vive. L'herbe refleurit les talus, l'effroi dispersa son escorte, et quand le vent battit ta porte, personne ne répondit plus.
Salut, toi qui pour nous es morte.
Mais non, tu n'es pas morte, non. pour déraciner le vieux monde. Nous n'avons qu'à jeter ton nom à l'énorme foule qui gronde. Buvez, chantez, faites l'amour. Le gouffre a faim, la planche glisse.
Il faut que le sort s'accomplisse.
Il faut que le sort s'accomplisse.
Il faut que le peuple ait son tour.
Il faut que le peuple ait son tour.
Salut demain. Salut justice.
Clovis Hugues, l'hymne à la commune.